Vous écoutez
RMC.
RMC.
Si vous remarquez mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur du jeu. Avec Messi, comme je l'ai dit autrefois, je serais au Real.
Bonjour, faut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno Benvindo.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Allez, il est 23h05, on est là avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo. On va parler de la course à l'Europe et je voulais saluer deux auditeurs qui sont venus nous voir d'Ardèche, qui font partie du club de foot de l'OCA Priva.
Les Ardéchois.
Citez-moi des grands joueurs de foot ardéchois.
Non.
Il y en a un qui a gagné la Coupe d'Europe avec l'OM.
Ah, Eli ?
Non.
Jean-Christophe Marquet.
Non.
Non.
À Strasbourg.
Durand.
Non.
Ah,
bien de terrain. Grosse frappe.
Sauzet.
Franck Sauzet.
Ah oui, Ardéchois, t'as raison.
Ah oui,
Ardéchois, Ardéchois, cœur fidèle.
Voilà. Né à Aubenas.
Aubenas, il y a une descente phénoménale que j'ai faite souvent avec le frein moteur.
Ah bon ?
Je suis allé beaucoup en Ardèche quand j'étais petit.
Ah bon,
à Annonay.
Et Clément Grenier d'Ardèche aussi.
Ah bon?
Sachez-le.
Ah ouais, je suis un Ardéchois. Tu connais pas Clément Grenier? Ah, c'est l'émission qui part en sucette.
Magnifique département, l'Ardèche. Non, mais je vous le conseille.
Ouais, magnifique. Ouais.
Surtout depuis qu'il nous a ramené plein de cadeaux, là, la crème de marron, tout ça, on se régale.
Avant, moi, je m'en fais goûter des gâteaux. Moyen quand même.
T'as été malade?
Non. Pas encore, je l'ai écouté il y a une demi-heure.
Ah bon, on salue donc l'OCA Priva qui était en première division de district.
Ah, je vais juste goûter.
Ah bah vas-y, gâteau farine de châtaigne là.
Ah oui, c'est nourrissant, tu veux dire.
Il est resté coincé dans ma gorge 15 minutes.
Ah, c'est...
Il m'a fallu 50 centilitres d'eau pour l'avaler.
Bon, revenons à la course à l'Europe.
Bien dans le ventre, c'est parfait.
Qui de Lille, de Rennes ou de Monaco restera sur le carreau? Hier, tu t'es engagé, Flo, en nous disant que Nantes allait se maintenir. On y va ce soir parce que je crois que tu voulais développer un avis autour de
Monaco.
Autour de Monaco. On peut donc lancer raisonnablement un jingle Gautreau.
Thierry, tu peux faire le geste de ta vie. Monsieur l'arbitre, tu fais main. Il ne l'a pas fait. Pour lui, pour tout le monde, c'est tellement dommage.
On vient de me fournir, juste avant mon avis, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais le faire après. Le sablé farine de châtaigne et olive noire.
Dans la foulée, tu prends un petit gâteau pour faire honneur à nos amis ardéchois qui ont apporté ces gâteaux à la farine.
Ça tombe bien, j'avais pas pris de dessert en plus.
C'est très bien, ça va te faire plaisir.
Je voulais parler de Monaco parce que récemment, dans un des avis qu'on avait fait dans l'after, j'avais dit que Monaco pouvait perdre sa quatrième place. C'était avant les deux derniers matchs contre Lyon et Rennes. Effectivement, comme prévu, ils ont perdu leurs deux matchs parce qu'ils n'avaient pas un calendrier facile et qu'ils jouent comme des pipes en ce moment, pour faire très simple. Et que j'ai profité donc de ma soirée au Roazhon Park samedi soir pour voir de près et en détail ce qui clochait et tout quoi, le body language, les attitudes, Clément sur le bord de touche, la compo, bref, j'ai un peu ausculté Monaco au passage à Roazhon Park. Exceptionnel. Je vous conseille de regarder le tifo qu'il y a eu au début et l'ambiance qui a été soulignée par Aguilar d'ailleurs à la mi-temps du match. Donc voilà, c'était une très belle soirée. Mais les Monégasques ont coulé après 10 minutes où ils ont fait une entame un peu correcte. On s'est dit tiens, il a dû y avoir des discours effectivement pour remettre tout ça en branle. Et derrière, c'est le néant. C'est-à-dire qu'il se passe plus rien. Puis ce qui est assez étonnant, c'est que Clément met une tactique en place qui n'est pas du tout en phase avec les joueurs qu'il a, c'est-à-dire avec Ben Yedder, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, il balance beaucoup devant, il joue pas dans les pieds, donc Ben Yedder a du mal à avoir des ballons. Et donc, très rapidement, l'équipe se délite. Et c'est à l'heure de jeu, alors qu'il y a 1-0 seulement à ce moment-là pour Rennes, il sort Golovin et Ben Yedder. C'est-à-dire que tu sens que Golovin et Ben Yedder peuvent être les joueurs qui peuvent faire basculer le match, mais on ne les met pas dans les bonnes conditions tactiquement pour le faire. Et à l'heure de jeu, de manière un peu classique, avec quand même, si tu regardes bien, un Ben Yedder qui, comme d'habitude, reste clean, mais a l'air un peu surpris une nouvelle fois de sortir si tôt dans le match. Et voilà. Et en gros, il se passe un truc, c'est qu'une partie du vestiaire, évidemment, n'est pas d'accord avec Clément. Il suffit de regarder les d'éclat d'après match. Clément lui dit ouais, c'est un problème de confiance, il minimise, il dit pas grand chose. Et Diatta lui dit non, ça va pas du tout. En fait, on est des pompes à vélo, ça marche pas. Il tient un discours beaucoup plus dur que celui de son propre coach en disant il y a des joueurs qui ont lâché, il y a des joueurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait depuis 6 matchs. Mmh. Depuis 6 matchs, Monaco a perdu 4 fois, je crois. Ils ont pris 3-0 donc en soin 4-0 contre Montpellier, ils ont pris 3-1 à Lyon, ils ont donc pris 2-0 à Rennes. Et ce qui est marrant dans ce match à Rennes, c'est que Rennes avait un joueur catastrophique samedi soir, c'est Toko Ekambi. Karl Poto et tant pis, qui était totalement à l'ouest, qui méritait un 2 sur 10 sur ce match. Et donc, en gros, ce Rennes à 10 a réussi à déstabiliser un Monaco qui avait une compo, on va dire, de classique, hein, tu vois, en termes de, je veux dire, d'individualité. Donc c'est une équipe qui est complètement perdue. Le coach a lâché. Il avait même sondé pour un retour dans son club de Bruges. Bon, finalement, ça va pas se faire. Depuis le changement de directeur sportif annoncé, on sait pas bien ce qui va se passer dans le club. Les joueurs eux-mêmes ont lâché très tôt quand ils ont vu qu'ils pouvaient plus aller chercher la deuxième place, enfin le podium plutôt. Et maintenant, ils essaient de se réveiller, mais il est trop tard. Et donc, s'il y avait une victime possible, effectivement, pour répondre à ta question, Gilbert, bah oui, effectivement, Monaco pourrait être cette victime parce que ils vont jouer contre Toulouse leur dernier match. C'est pas gagné du tout. Et surtout, c'est pas tant le fait que ce soit Toulouse, c'est le fait d'avoir vu ce Monaco-là, cette incapacité à créer du danger, le fait que les joueurs, globalement, coulent en silence, en baissant la tête, mais il se passe pas grand chose dans cette équipe. Tu vois, je regardais par exemple Dizazi, qui est un joueur de l'équipe de France, enfin, un joueur dans le groupe France, on va dire. Dizazi, il est dépassé, il est lourd, il n'y a pas de ouais, tempérament là-dedans.
Il a déjà la tête dans son transfert.
Bah, il est lourd et dépassé, mais il a une grosse cote. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais,
il est déjà ailleurs.
Mais
les
mecs ne sont plus
c'est
à
ça, Monaco. Donc,
t'as un vestiaire qui est divisé. Tu as des joueurs qui sont dégoûtés, comme Diatta l'a dit, et d'autres qui semblent globalement s'en foutent. Tu as des joueurs qui, quand même, comme Ben Yedder, ont vécu un truc assez particulier. Parce qu'ils ont été mis un peu à toutes les sauces par leur entraîneur. T'as un entraîneur qui n'y arrive plus, qui n'est plus la bonne personne. Et donc cette équipe-là, qui était quatrième et qui pouvait viser à un moment donné le podium, pourrait se retrouver à la septième place à la fin de la saison. Donc voilà.
Daniel, t'es d'accord avec ce...
Absolument. Je trouve que Monaco a complètement tout perdu. D'abord, je vois même pas comment ils pourraient revenir là, puisque moi, si la question c'est aussi de savoir qui va finir quatrième. Bah, je vois pas comment Lille maintenant peut laisser échapper ça puisqu'ils n'ont plus qu'un match et ils doivent le gagner. Et je pense qu'ils vont le gagner et Monaco sera effectivement à une bonne tête de cocu. Je sais pas s'ils le seront complètement, mais ils ont quand même vraiment la tête du cocu de l'histoire et je pense qu'en plus ils auront mérité qu'ils l'ont cherché et qu'ils ont rien fait pour éviter de terminer dans cette position-là. Ils auront été décevants toute la saison. Ils auront été décevants en Europa League, sur cette fin de championnat, ils avaient tout pour jouer le podium, ils ont tout gâché. On ne sait pas qui sera l'entraîneur, on ne sait plus qui va diriger le club. C'est vraiment une situation, j'allais dire assez folle, je sais même pas avec ce club. Je sais même plus ce qui est fou avec ce club. Je sais pas qui s'intéresse encore à ce club-là, quand même un de nos clubs historiques. Mais je trouve qu'ils ne font pas grand-chose, les dirigeants, pour qu'on en dise du bien et qu'on s'intéresse à eux.
Et dernier petit point sur cette lutte pour l'Europe et ses quatrième, cinquième et sixième places. Effectivement, Lyon peut également passer devant Monaco. À la différence de but, Lyon a 7 buts d'avance par rapport à Monaco. Et puis, par rapport à Lille et Rennes, je trouve la situation de Lille peut-être plus simple, entre guillemets, que celle de Rennes, sur les deux derniers matchs, hein, j'entends, puisque Rennes va à Brest.
Le dernier, en l'occurrence.
Oui, sur le dernier, pardon. Oui. Que Rennes va à Brest. Brest a montré à Marseille qu'ils étaient dans une bonne dynamique et qu'ils n'avaient pas terminé leur saison. Alors que Lille va à 3. Et que là, il me semble plus simple, en gros, pour Lille de gagner à 3 que pour Rennes de gagner à Brest.
Alors attention, il y a encore une possibilité que le 6e soit européen. Vous avez vu ça? Si jamais l'UEFA interdit à Toulouse.
Absolument. J'ai vu ça ce matin.
Européen, du fait que le Milan AC.
Ça va être une grosse affaire.
Ouais, mais ce que je te dis aussi, c'est que Lyon peut prendre aussi cette sixième place.
Tout à fait.
Tu sais que vraiment Monaco peut être septième. Hein.
Ah, Monaco, bah, ils vont bien.
Non, mais la Monaco, si Monaco est septième et que derrière Toulouse est interdit de jouer la Coupe d'Europe et que c'est finalement Lyon qui prend la place, alors là, c'est la honte absolue.
Ça agite rien, Monaco. Ça agite jamais rien.
Bon, bah, Lyon sera content, parce que du coup, ce sera peut-être les Lyonnais.
C'est peut-être même mieux pour le foot français que ce soit alors, Lyon.
Je vais faire le point sablé maintenant, parce que pendant que tu répondais, Daniel, j'ai goûté le sablé.
Ah, t'as réussi à l'avaler déjà ?
Ouais. J'ai l'ingéré, je l'ai mastiqué, et je dirais que c'est plus pour moi un produit d'apéro qu'un produit de dessert.
Voilà, le verdict est tombé.
Donc c'est quand même c'est sucré, quoi. Donc oui, c'est l'apéro.
Non, moi je trouve pas justement. J'ai trouvé qu'il y a farine de châtaigne.
Ça t'a plu là.
Bon, écoute, pour l'apéro avec un petit vin blanc. Ils ont apporté un petit vin blanc avec, non ?
Ouais, il y a aussi
avec le
petit vin blanc dans la corbeille. Il y avait un petit vin blanc.
Alors là, faut pas m'en promettre. Hein.
À propos de Coupe d'Europe, on connaît deux nouveaux adversaires potentiels de l'OM au tour préliminaire. Vous savez que normalement l'OM sera tête de série pour son troisième tour de qualif avant l'éventuel barrage. Donc normalement, il devrait éviter Braga, qui devrait être tête de série aussi, et éviter normalement le PSV Eindhoven, qui devrait être tête de série aussi.
Ah, c'est pas mal.
Voilà. Ensuite, derrière, tu peux prendre Glasgow Rangers, on les avait déjà cités l'autre jour.
Ça va aller, si tu passes pas avec Glasgow Rangers, t'as rien à faire en Ligue des Champions.
Sturm Graz, club autrichien.
Si tu passes pas avec Sturm Graz, t'as rien à faire en Ligue des Champions.
Palatinaikos, club grec, évidemment.
Si tu passes pas Palatinaikos, t'as rien à faire en Ligue des Champions.
Servette Genève, qui le représente en Suisse à ce stade de la compétition.
Si tu passes pas le Servette, t'as rien à faire en Ligue des Champions.
Il y a un club serbe qui s'appelle Baka Topola, c'est une ville au nord de la Serbie.
Si tu passes pas ça, Topola, t'as rien à faire en Conference League.
Francis Ford Topola. Et il manque le représentant ukrainien et le belge. Attention au belge. Mais il peut être de série aussi, celui-là, le belge.
Ouais.
Mais c'est quel belge ?
On ne sait pas encore.
Ouais, t'as vu qu'il y a une lutte incroyable dans la Jupiler League, hein,
on sait
d'ailleurs,
pas encore.
Avant la dernière journée.
La Jupie, on dit là-bas.
Ah, la Jupie.
La Jupie.
Mmh. Okay. Tu veux dire par rapport à la colonne de gauche ?
Ah oui,
l'ancien Gilloise, tout ça. Mmh. Dans un instant, Benzema. Et les drôles de l'âme au programme de l'after avant de parler des très très drôles de l'âme pour un point Bayern et un point Juventus. Sans oublier le tennis, Eric Salio, où en est-on dans le match de Monfils ?
Gaël Monfils a un petit coup de bambou, peut-être légitime parce qu'il a beaucoup de.
Ouais, mais ça c'est pour jouer le 5ème set, ça. C'est spectacle, c'est fait exprès.
D'accord, bah c'est écrit. Alors donc 4-1 pour Sébastien Bez dans le 4ème set, mais le français même.
Il y a la musique en mode hockey sur glace là, au
changement de côté. Oui, au changement de côté, oui. Ah,
c'est
pour regarder les gens éveillés.
Ah.
Mais il n'y a pas les caméras bisous, tu sais, là, Kiss. De vrai, c'est ça.
Avant, je pèse le son, là, c'est bien, le bordel derrière toi. Hein, la
Kiss Cam, t'aimes bien.
Ah, c'est marrant, à l'US Open, ils font ça, c'est sympa. Comme
ça, c'est spécialité des sports US. Oui, et puis, il faut aussi la caméra look-alike, c'est avec les sosies. Fais gaffe que ça tombe pas sur toi.
T'as raison, non, moi, je suis bien caché dans la cabine.
Ouais, mais si ça tombe sur Alex Salio, il faudrait qu'en tribune, il y ait également Jean Roucas. Mais il sera pas là.
Ou Lionel Jospin. Ou Lionel Jospin.
Ou Sébastien Bazin.
Ouais.
Eric Salio, c'est assez
bon. Validé.
J'avais de la vie.
Il préfère ça à Jean Roucas, c'est pour ça qu'il dit ça.
Eric Salio a jamais l'allure d'un homme d'affaires.
C'est vrai que là, je suis en tongue Bermuda, oui, t'as raison.
Franchement.
Quand tu sors sur le taquini blanc, ça fait un peu.
Ça fait pas
un chef d'entreprise au club
de volé. Ça fait au mieux, ça fait le mec qui passe le filet sur la terre battue ou qui balaye les lignes.
Qui va voler un sur le taquini, plus personne ne met ça.
Tu rigoles ou quoi ? C'est une marque qui est devenue hyper hype.
Daniel, j'ai vu que t'avais le portrait dans West France, donc c'est la gloire.
Quel rapport avec taquini ?
Aucun.
J'ai le portrait dans West France. D'ailleurs, je remercie ce quotidien important en France, oui, West France,
pour lequel j'ai débuté, absolument.
Voilà, donc je remercie Pierre Guillon, ce journaliste qui m'a suivi toute une journée, donc dans West France.
Un papier très complaisant, paraît-il. Tu confirmes ?
Complaisant, le gars, il a le droit de dire la vérité ou comment ça se passe ?
Allez, à tout de suite à l'after, messieurs dames.
Mais pour revenir à Taquini, c'est une marque qui est redevenue totalement hype.
Ah, moi, je sais pas.
Moi, j'ai toute la dernière collection.
Pour moi, ça a disparu quand j'avais 10 ans.
Ouais, c'est un petit peu dans la cité de la Grande Borne à Grigny.
Jamais de la vie, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, les gars. Taquini, c'est redevenu totalement hype.
Ah bon, un peu racaille chic maintenant, Daniel.
Mais pas du tout. Pas du tout, vraiment. Moi,
depuis ton dépit amoureux avec le PSG.
Moi, Taquini, c'est mon équipementier pour mes
tournois. Rends-lui sa banane Lacoste.
Ouais. Moi, c'est pour moi.
Mais tu mets tes papiers dans ta banane, non Tu mets tes papiers dans ta banane, Taquini.
Mais moi, c'est mon équipementier tournoi, Taquini, et c'est très très classe. Voilà.
Voilà. Bah nous, on a bien, tu les as cités 25 fois, ouais. Tout va bien.
Allez. Nous, on continue comme ça à m'équiper.
Nous, on continue avec le crocodile.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h19, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, on va accueillir le drôle de l'âme dans quelques instants, une info qui vient d'arriver, Oussem Aouar convoqué pour la première fois avec l'Algérie. Djamel Belmadi a donné son équipe là pour les prochains matchs internationaux à venir. Voilà, il y a un match contre l'Ouganda le 18 juin pour le compte des éliminatoires de la CAN et un match contre la Tunisie en amical le 20 juin. Et donc Oussem Aouar appelé pour la première fois. Et
il a le niveau pour jouer avec l'Algérie, Oussem Aouar.
Bah après, est-ce qu'il va jouer?
Parce qu'il joue plus là, tu vois, donc c'est étonnant quand même.
Ouais, écoute, voilà, j'ai la liste sous les yeux.
Qu'ils allaient mieux.
Il y a Ben Sebaini, Adjam, qu'on connaît, Aïssa Mandi, par exemple, Boudaoui, Denis, Ben Taleb, d'Angers, voilà, Aouar, Abdelli, d'Angers, également est pris, tout comme Shaibi de Toulouse, par exemple, parmi les joueurs, ou Slimani également. Voilà. Un mot de Benzema, on va accueillir Fred Hermel tout de suite. Fredo, bonsoir.
Ah. Fred Hermel, bonsoir.
Hola chicos.
Voilà.
En fait, au départ, t'es là pour parler des traîtres. On met pas encore Benzema dans les traîtres, bien sûr. Attention, deux dossiers totalement séparés. Mais tout de même, cette histoire d'Arabie Saoudite là et d'offres qui est évaluée par certains médias espagnols à 200 millions d'euros. Toi, ton avis de benzémiste sur la question?
Bah, et puis mon avis de journaliste qui a passé quelques coups de fil, alors que l'Arabie Saoudite, je dis bien l'Arabie Saoudite parce que c'est pas un club, c'est l'Arabie Saoudite qui veut faire venir plein de joueurs comme ils l'ont fait
à Cristiano, et après ils ont dit tu veux un club
et avec Messi, c'est-à-dire après il choisit le club, l'idée c'est d'avoir une star dans chaque équipe et de faire un championnat très compétitif. Bien sûr qu'il y a une offre de l'Arabie Saoudite à Benzema comme il y a une offre pour plein de joueurs. Cela entre dans un cadre de développement du pays et de ses géopolitiques. Hein. C'est un pays qui est en train de s'ouvrir, donc voilà, qui veut des images très fortes au niveau géopolitique.
On a compris que c'est pas le projet sportif.
Non, ça c'est clair. Mais c'est-à-dire que la géopolitique, ça passe aussi par le sport. Donc un championnat attractif automatiquement donne une visibilité.
On a fait de la géopolitique au Qatar avec Daniel pendant un mois. On connaît toutes les questions par cœur.
Vous savez très bien. Donc du côté du Real Madrid. Ils sont a priori pas trop inquiets sur la volonté de Benzema, même si on sait très bien que le Florentino Pérez acceptera la décision de Benzema au nom de toutes les années qu'il a passé au Real Madrid et tout ce qu'il a fait.
Ah, ça veut dire qu'il ouvre la porte.
Non, c'est pas qu'il ouvre la porte, c'est que
voilà. Bien sûr qu'elle est ouverte la porte, voyons.
Mais voilà, après simplement, moi j'ai échangé il y a quelques minutes avec un ami saoudien qui a été l'un des artificiers de la venue de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.
Oh. Artisan, plus qu'artificier, non?
Artisan,
oui. Oui, artificier, ça veut dire qu'il a mis le feu à l'avenue de Cristiano Ronaldo.
Il a peut-être monté un feu d'artifice pour la venue de Ronaldo.
Non, alors, tu vois, 30 ans d'Espagne, ça pèse, on appelle ça un hispanisme. Donc, oui, l'un des artisans de la venue de Cristiano Ronaldo, lui me dit que non. Que Benzema ne va pas venir. Après, c'est l'information de ce soir. On sait comment ça peut se passer dans le football. Qu'il y ait une offre, oui. Que ce soit une somme délirante, oui. Que Benzema puisse partir, oui. Mais la tendance, au moment où on parle, c'est qu'il reste au Real Madrid. Donc, voilà. Après, moi, je me souviens de discussions avec Benzema où, pour lui, c'est un objectif, c'était de rester au Real Madrid. De terminer sa carrière au Real Madrid.
Mais ça veut dire qu'il y a une hésitation de sa part? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
En tout cas,
il y a une proposition claire, il l'a sur un coin de sa table.
Je n'ai pas parlé avec Benzema, donc je ne peux pas le dire.
Mmh. Quand tu as une offre de 200 millions, tu la laisses sur un coin de ta table?
Dans un coin de ta tête.
Non, moi je ne la laisse pas sur le coin.
Bah non, pas le coin.
Non, mais dans un coin de ta tête.
Tu la mets en haut de la pile quand même.
Bah ouais.
Oui, mais à un moment.
Limite, tu l'as mis dans un petit dossier.
C'est quoi la différence entre.
T'écris dessus offre Arabie Saoudite?
Après, si je dois aller à Roland le lendemain, je me dis que j'étudierai l'offre après-demain.
Ouais, mais si t'as déjà 50 millions en banque, 200 millions,
mais
c'est
si t'as
quoi
pas de enfin, pression, je... Si t'as pas de pression sur la date et autres, je la laisse n'importe où, peu importe.
Ouais.
Mais en revanche, non, mais en fait, l'histoire des générations que tu mets à l'abri, parce que finalement, à un moment donné, faut quand même parler pognon. Il y a un truc qui met. Soit le mec veut envoyer des satellites sur Mars.
Mais oui, mais ça sert à quoi de 200 millions
non, non, non,
les générations
non,
à la justement. Brise, au bout de la quatrième, tu
c'est
les
ce que je te dis.
Plus,
et puis pour ça, c'est pour ça que l'histoire de blé, à un moment donné, soit tu as un projet bien plus grand que l'histoire de génération. Tu veux envoyer, par exemple, des satellites sur la Lune, tu veux construire une nouvelle ville qui vaut 7 milliards. Ok, dans ce cas-là, va en Arabie Saoudite, prends le plus de pognon possible parce que c'est sûr que ça coûte très cher. Mais une fois que tu as mis une, deux, trois, quatre générations à l'abri, machin, est-ce qu'effectivement, tu n'as pas envie de te dire
te
oui, je reste au Real et
Tu es déjà millionnaire, on t'offre 200 millions ailleurs, tu vas dire non ? Réfléchis deux secondes.
Bah, peut-être, oui. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que tu veux de ta vie une fois que tu as mis tes trois générations à venir à l'abri, que tu es heureux et que tu as justement le choix de pouvoir faire un truc et
d'autres projets. Peut-être.
Moi, il m'en faudrait beaucoup
peut-être
parce que comme je dois racheter le PSG et qu'on se prend une grosse équipe, j'aurais besoin de beaucoup.
Ça, oui, c'est un projet, tu vois, ça coûte cher.
Moi, j'aurais pu plutôt que racheter le PSG, j'aurais dit on aurait ouvert des écoles en Afrique ou.
Ah oui, oui, t'as raison.
Toi, pour racheter Strasbourg avec 5 millions, c'est bouclé. Donc,
je vais vous citer.
T'as pas besoin de beaucoup, toi.
Non mais juste attends Fred, juste pour répondre. Non mais Gilbert a raison. Gilbert,
le Samaritain, mais non, mais j'avais même pas un prix.
N'importe quel projet qui coûte plein d'argent justifierait que tu fasses ce transfert à la fin de ta carrière.
Bill Gates, il fait quoi de son argent? Il a même dit à ses enfants, vous n'aurez pas l'argent. Voilà, vous n'avez qu'à faire des études.
Bien joué, Bill.
Mais le président de l'Atlético,
il a des fondations. J'en aurais une.
Le président de l'Atlético, laissez-moi parler, merci. Le président de l'Atlético de Madrid, qui est très riche, dit toujours. Il y a un moment, je peux pas manger plus de gambas que mon estomac ne supporte. C'est-à-dire qu'à un moment, plus d'argent, tu peux rien faire, en fait. Ça sert à rien.
Sauf à faire comme Bill Gates, c'est-à-dire de penser aux autres.
Ouais. Voilà. Tu te dis, dans ta vie quotidienne, que t'es 50 millions en banque, je sais pas combien à Benzema. Enfin, il gagne à peu près 10 millions par an. Ça fait plusieurs, enfin, je sais pas, j'espère pour lui qu'il doit être autour de 50 millions en banque. Enfin,
non, mais vous êtes bien gentil avec
vu ses vidéos sur Instagram, il
Ronaldo,
dépense beaucoup dans les
manières. Ronaldo, ça l'a pas emmerdé. Il est allé. Messi va probablement aller là-bas aussi. Bon, visiblement, eux, ces soucis-là, ils les ont pas. Ils savent quoi en faire. Ils distribuent, je sais pas ce qu'ils font. Mais
autour de Messi, là, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent.
Mais non, mais c'est parce que vous avez des raisonnements de pauvres.
Oui, ah ben je suis d'accord avec toi, on a des raisonnements de pauvres.
Ah ouais, ben écoute.
Ou alors ou des raisonnements de gens qui ne sont pas entubés par des milliers de personnes autour.
Ah mais
permettez-moi qu'on avance.
Parce que Messi, il y a des milliers de personnes qui vivent autour, hein, on sait. Hein.
C'est ça, et son papa le pousse à aller en Arabie Saoudite et il va y aller. Parce que ça sent le roussi, le fameux retour au Barça auquel moi personnellement j'ai jamais cru.
Javier Tebas était avec nous il y a un mois, il nous expliquait.
Il avait dit qu'il ne voyait pas comment il irait.
Comment le Barça pourrait payer ça, quoi,
à moins de pas avoir de salaire limite.
Ouais.
Moi je pensais qu'il aimait tellement le Barça, ce serait pas un problème, mais on a peut-être menti. Hein.
C'est pas le genre de la maison de faire.
On m'a peut-être menti, moi.
Des ristours de côté Messi, tu vois.
Voilà, mais visiblement il y en a qui croient encore à ses sornettes.
Fred, bouge pas. Dans quelques instants, on te retrouve pour que tu nous donnes ton traître ultime de la Liga. Mais en attendant, on a un peu d'actu quand même à voir avec Johan Crochet et Paulo Breitner. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert. Bonsoir à toutes et à tous.
Johan, raconte-nous ce qui s'est passé pour la Juve aujourd'hui, dans la fameuse affaire à rebondissement, des pénalités, points perdus, amendes et autres liées à la gestion sportive.
La fameuse affaire à 50 bandes. Alors, aujourd'hui, on l'avait annoncé dès hier soir dans Génération After, il avait été précisé que la Juve avait trouvé un accord avec la Fédération pour le volet des salaires. Les salaires, c'est quoi ? Grosso modo, pendant la période du Covid, la Juve avait annoncé que les joueurs avaient renoncé à des mensualités, plusieurs mensualités, avaient communiqué ça publiquement, les avaient transmis à la bourse et il s'est avéré ensuite qu'ils avaient passé des accords secrets avec les joueurs pour que les salaires ne soient pas annulé, mais simplement reporté. Sauf qu'il l'avait pas annoncé dans les bilans, tous les bilans économiques de fin de saison, etc. Et donc, la bourse avait commencé à taper sur les doigts de la Juve, etc. Donc, ils ont décidé à ce moment-là, de trouver un accord. Trouver un accord, ça veut dire quoi? On trouve un accord avec la fédération et ensuite, on passe à une audience le lendemain. Là, c'était avancé au lendemain. Où on dit, en grosso modo, est-ce que l'accord entre la fédération et la Juve est valable ou pas? S'il est pas valable, on repasse à une étude du cas. S'il est valable, on entérine la chose et c'est comme ça. Et ils ont trouvé cet accord sur les salaires qui a un effet, j'allais dire un double effet qui se coule. C'est-à-dire que dans l'accord, il a été précisé que, OK, on vous met pas de points supplémentaires de déduction. Je précise, ça, c'est les salaires sur les doubles, sur les transferts surévalués, etc. C'était autre chose. Mais sur l'affaire des salaires, on vous met pas de points en moins, on vous met une amende qui vaut ce qu'elle vaut, 718 000 euros, c'est peu ou pas, ou trop, j'en sais rien. Mais par contre, on dit que sur l'affaire des moins 10 points, donc liée aux plus-values fictive ou exagérée, etc., vous ne pouvez plus faire appel. C'est ça l'accord. On ne vous met pas de points en moins. Par contre, vous laissez tomber tous les appels possibles après les moins 10 points, la nouvelle sanction tombée par le tribunal fédéral italien, donc de la Fédération nationale italienne de football. Et donc, bah, ça a été entériné comme ça. Donc la Juve a bien les moins 10 points liés aux plus-values fictives. La Juve, les dirigeants de la Juve ont bien été sanctionnés. Il y a 718 000 euros supplémentaires d'amende qui ont été faits. Et la Juve renonce à tout appel. Ce qui permet une chose, la Juve, alors du côté de la fédération, en gros, l'idée depuis le départ, c'est ce que je disais hier soir, moi je ne comprends pas cette espèce de marchandage de tapis qui est insupportable. En gros, ça ne devrait pas être au doigt mouillé, cette histoire. Ouais. En gros, on a dit à la Juve, il faut les sortir de la Ligue des Champions, parce que ça sera une sanction qui sera très pénible sportivement et aussi économiquement, sans les recettes de la C1. Donc les moins 10 points permettaient de sortir la Juve de la Ligue des Champions, mais permettaient de les garder encore possiblement en Conference League ou en Europa League, parce que derrière, il y a une sanction qui peut arriver de l'UEFA, les privant de qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et vous savez comment ça se passe, les sanctions en Coupe d'Europe avec l'UEFA, c'est... La sanction est pour la prochaine fois où vous allez vous qualifier en Coupe d'Europe. Si là, ils avaient sorti la Juve de toute Coupe d'Europe, ça veut dire que la saison prochaine, il n'y aurait pas eu de Coupe d'Europe. Donc l'éventuelle sanction de l'UEFA aurait été repoussée à la saison encore d'après. Ce qui veut dire qu'il y aurait eu deux saisons consécutives sans Coupe d'Europe pour la Juve. Et ça, on estime, je pense sincèrement, c'est là que je reviens à cette espèce de marchandage, de souk, de fin de marché où tu négocies le prix des tomates. Où en gros, on a dit deux, c'est trop, donc allez, on signe pour un et puis voilà.
Et il faut évoquer le chantage aussi qu'a fait planer Seferin. On en a parlé ensemble récemment sur le chantage qui portait sur l'idée que la Juve, pour être épargnée de sanctions au niveau européen, devait faire une déclaration comme quoi il renonçait à l'idée de Super League. Ça, je trouve que là, on a atteint un degré de scandale, de méthode mafieuse de la part de Seferin qui est complètement hallucinant. Hallucinant.
Tout est insupportable en fait dans cette histoire parce que tout, je le répète, c'est une question de ouais, tu négocies le prix du kilo de tomate.
On n'est plus dans le débat de pour ou contre quoi. C'est comme tu dis, s'il y a eu faute, il y a sanction. Est-ce que ça doit être répercuté au niveau européen?
Elle est établie par rapport à un barème. Voilà, on prend le barème.
Est-ce que ça doit être répercuté au niveau européen? Mais la menace, on va vous sanctionner aussi au niveau européen parce que vous êtes dans le clan des méchants qui êtes pour la Super League et donc on va vous faire peur. Mais c'est ce qu'a fait, enfin c'est fait. Il y a eu des articles en Italie là-dessus, il faut quand même le dire, notamment dans la Gazzetta, où officie un journaliste qui est proche de Seferin, qui donc en gros sert à passer des messages et à un peu faire laisser planer la menace officielle.
Tu sais qui est le propriétaire de la Gazzetta.
Ben, il faut le dire. Donc le propriétaire. Expliquons le propriétaire de la Gazzetta, mais également celui de Marca, c'est ça.
Ouais.
C'est le président du Torino. Oui.
Cairo,
qui est un proche de Seferin.
Exactement.
Enfin, je sais pas, vous mesurez un petit peu le scandale européen. On n'en parle pas en France de ça.
C'est un délire.
On n'en parle pas en France. C'est vraiment pas un sujet dont on parle. Moi, je tenais à ce qu'on en parle beaucoup et on n'a pas assez de temps d'ailleurs. Mais il se passe des choses au niveau du football européen dans cette histoire de Super League entre les pour, les contre, les opposants. On est dans une espèce de guerre économique incroyable. Et Polo, on pourrait presque déborder sur lui parce que le retour de Rummenigge au Bayern, lui, qui a des idées là-dessus qu'on maîtrise pas bien. Il a d'abord été pour, il est maintenant a priori contre, et encore qu'on sait pas très bien vraiment dans quel camp il est. Mais il y a des batailles de pouvoir en ce moment dans le foot européen qui sont très intéressantes à suivre d'un œil extérieur, mais avec des coups bas d'une violence assez phénoménale.
Ouais, on est dans le monde des entre l'affaire, le monde des affaires, du business et de la politique, quoi, où tous les coups sont permis pour arriver à tes fins. Et moi, vous savez ce que je pense en gros de la Super League et de comment c'est construit et par qui c'est construit. Mais moi, je trouve ça insupportable qu'on fasse un espèce de chantage à la Super League en disant, on peut ne pas vous sanctionner, mais faut faire
comment tu peux encore soutenir l'UEFA et Seferin, Johan, ça te dégoûte pas?
Non, mais en fait, ma position, c'est que moi, si on quitte l'UEFA, je veux que ça soit pour quelque chose de bien, pas pour quelque chose de mal.
Ouais, mais là, pour l'instant, on ne sait pas trop.
Parce qu'il y a encore plein de choses qui nous attendent. Johan, reste également, parce que toi aussi, tu veux nous donner ton traître ultime de la Serie A dans quelques instants. Polo Breitner est là. Polo, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Polo, est-ce que le dossier Bayern a avancé aujourd'hui?
Sur le dossier Bayern.
Oui, les nouveaux dirigeants, tout ça.
Oui, évidemment, c'est le retour, ou tout du moins l'arrivée de Karl-Heinz Rummenigge au conseil de surveillance du Bayern. Rappelons qu'il a été CEO avant.
Avec du vieux, là.
Ben, c'est en Allemagne, tu sais, on dit que c'est l'ancienne République qui revient, celle d'où Lyonnais, tout simplement, parce qu'ils sont en train de faire le ménage. On parle des conseillers d'Oliver Kahn qui sont aussi sur le départ et qui auraient été, en l'occurrence, responsables de la très mauvaise ambiance au sein du personnel de la Sabenerstrasse et donc les employés, tout simplement. Et là, on est en train de faire le ménage complètement. Ce qui est important pour cet été, donc nous n'aurons pas de directeur sportif, mais il y aura, en gros, le conseil de surveillance, Rummenigge, Hoeneß et d'autres personnes qui seront là pour superviser ce que veut en gros faire Thomas Tuchel, pour simplifier. Thomas Tuchel va devenir en tout cas un genre de manager à l'anglais, c'est-à-dire c'est très rare en Allemagne, c'est-à-dire qu'il soit l'entraîneur qui décide en même temps de qui il veut comme joueur, mais c'est ce fameux board, donc tous les transferts à plus de 20 millions d'euros seront validés par le board du Bayern Munich. Et encore une fois, okay, ce qui est très très intéressant en Allemagne, c'est que c'est vraiment le retour de cette, entre guillemets, vieille Allemagne. On appelle ça la Bundesrepublik, la RFA, le retour de la RFA.
Toi, t'en penses quoi du retour de Karl-Henri, Charles-Henri?
De Charles-Henri et Charles-Henriot. J'en pense que c'est pas facile de changer de génération. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Oliver Kahn a fait des erreurs manifestes, non pas forcément sur les idées qu'il a eues, mais sur la méthode, c'est-à-dire qu'Oliver Kahn n'a pas compris que ce n'est pas lui qui représente le Bayern Munich et que l'institution bavaroise est au-dessus de lui et que lui, il est resté trop joueur et dans le conflit permanent, notamment avec certains médias ou la façon de s'expliquer sur différents sujets.
Paulo, dans quelques instants, toi aussi, tu vas nous donner ton traître ultime de la Bundesliga. Je précise que, c'est pas, on le met pas dans les traîtres, hein, mais que Benjamin Pavard, lui, a expliqué au Bayern qu'il voulait partir. Oui. Et apparemment, le Barça s'intéresse à lui, Benjamin Pavard. À suivre.
Avec quel sou?
On va voir. Dans un instant, les traîtres dans le foot. C'est le sujet, un des sujets principaux de la prochaine revue de l'After, enfin, de la revue de l'After qui est actuellement
en kiosque.
On va en parler ensemble et en débattre. Préparez vos traîtres, les gars. C'est parti. On va se régaler.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h39, Florent Gautre, Daniel Riolo, les drôles de dames, les traîtres dans le foot, juste après Eric Salio, qui lui ne sera...
Ça sent le dernier Roland-Garros pour mon fils.
Ne sera jamais le traître de Roland-Garros, il sera toujours fidèle, Eric. Eric, où en est-on du match de mon fils?
Ah, grosse panne d'essence pour Gaël, mon fils. Il y avait de l'espoir, mais là, il y a 2-7 partout, là, déjà. Hein. Baez a remporté le 4e 6-1, alors... Daniel connaît ça, on se dit la théorie du je laisse filer pour repartir à fond dans le troisième, sauf que dans le cinquième, sauf qu'il y a 3-0 déjà pour Sébastien Baez dans le cinquième set. Okay. C'est vraiment la théorie de la panne d'essence.
À tout à l'heure pour une éventuelle balle de match, Eric. Alors, dans la revue de l'After, on a voulu faire un dossier sur foot et morale. Et puis assez vite, on s'est rendu compte que foot et morale étaient assez peu compatibles et qu'on avait quand même une sacrée série de traîtres à lister. On s'est amusé à le faire et on se propose de le faire avec vous ce soir. Et on va démarrer par les drôles de l'âme avec une sorte de mise en bouche où chaque drôle de l'âme va nous donner dans son championnat quel est le traître ultime. On va démarrer par Fred parce que je pense qu'il va nous citer le mec que tout le monde met en numéro 1 de tous les traîtres du football du 20e et 21e siècle.
Vous allez me dire Figo?
Bah oui.
Bah non.
Oh.
Bah non, parce
que pire que Figo.
Je vois pas qui y a pire que Figo.
Ah bah, je vais vous le dire, parce que le traître ultime, il y a pire que Figo. Il y a pire. Alors même si Figo ça a eu en 2000.
Et voilà, Luis Enrique.
C'est un Allemand.
Attends. Oui, c'est un Allemand, mais le dis pas, laisse-moi le dire. Mais bien sûr. Mais alors, parce que Figo, c'est l'image du traître. Mais en fait, il voulait pas y aller en plus à Madrid. On l'a souvent expliqué.
Ouais, c'est pas très clair quand même.
C'est pas très clair, donc il voulait pas. Et puis, alors c'est vrai que ça a eu un impact énorme parce que ça a été bon pour le Real et le Barça a mis des années à s'en remettre. Non, il est Allemand. Il s'appelle Bernd Schuster. Parce que Bernd Schuster, il a fait le Barça, le Real et l'Atlético.
Ah oui, c'est
à la suite. Oui. Alors c'est-à-dire que en plus pas n'importe comment. C'est-à-dire que il fait 8 saisons au Barça entre 80 et 88 et ensuite il va au Real 88-90 et après il va à l'Atlético 90-93.
Donc à chaque fois il trahit en fait.
Ouais, en plus, il faut voir l'ordre parce que l'ordre est le pire possible. C'est-à-dire que tu es au Barça, le pire possible, c'est d'aller au Real. Et quand t'es au Real, après, le pire possible, c'est d'aller à l'Atlético. C'est-à-dire que s'il passe, il va au Real en passant par l'Atlético.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est détesté dans les trois?
Non. Alors, c'est marrant, c'est parce que, autant Figo, lui, a laissé une image terrible à Barcelone, il est détesté. Autant Bernd Schuster, finalement, c'est ça c'est passé. Voilà, c'est pas resté.
Il y a prescription, tu veux dire.
Il y a prescription, puis surtout, en fait, il était testé pour sa personnalité. C'est pas un mec très sympa. Hein, c'est.
Polo, tu confirmes?
Je confirme qu'il n'y a aucune biographie de ce personnage que j'ai adoré quand j'étais gamin en Allemagne.
Ah, bon. C'est pas un mec gentil, c'est un mec bizarre.
Non, c'est très spécial.
Il avait un truc quand même, Bernd Schuster. Il avait un style, un port comme ça. Il avait
C'était un joueur énorme.
Bah oui.
Et puis, successeur de Overath à l'époque, au départ.
Et puis c'est un joueur qui. Il y a eu une période, cette période-là, années 80, et surtout les années 80, où on aimait beaucoup les joueurs allemands en Espagne parce qu'ils ont aidé la compétitivité des clubs. C'est-à-dire c'était important d'avoir des joueurs allemands en Liga. En plus, Schuster, il a entraîné le Real aussi après. Donc c'est dingue. Et vous savez pourquoi il a été viré du Real? Parce qu'il a dit qu'il n'était pas possible d'aller gagner au Camp Nou. Et ça, c'est pas. voilà.
Bon, merci Fred pour ton
traître. Ah non, mais j'aime bien cette histoire. C'est vrai que Figo, l'histoire est absolument folle.
Mais Schuster, elle est moins connue pour nous.
Mais Schuster, c'est vrai, c'est valable.
C'est très valable.
Salut Fredo.
Mais c'est vrai juste un passage sur Schuster, parce que quand j'ai bossé sur les traites, c'était. Enfin, pour la revue de la Fleur aussi, évidemment, j'avais relu pas mal de choses. En dehors de son côté traite, il y a effectivement, comme disait Polo ou Fred, je sais plus, le caractère. C'est quand même. En dehors de ça, c'est qu'un mec, il disait ce qu'il avait envie de dire. Je crois Polo qui s'est brouillé avec Derval, tu sais, il a arrêté la sélection.
C'était un traître et en plus un con.
C'est un vrai libéral. C'est un libre. C'est un homme libre.
Un libéral pur. C'est-à-dire qu'il négocie tout. C'est sa femme qui le faisait.
Alors, c'est un libéral, mais c'est un cow-boy aussi. T'as raison, c'est la même chose, mais dans le papier que j'ai fait, moi, j'ai dit vive les traîtres, entre guillemets, parce que j'ai dit que la vie d'un footballeur professionnel, c'est un business, c'est un métier, et que donc, à un moment donné, tu peux être fidèle, avec Gravelaine, on en a souvent parlé, à plusieurs reprises dans ta vie, t'es fidèle plusieurs fois de suite. C'est ça le principe du traître.
Tu sais que Xavier Gravelaine, il avait fait quelques afters avec nous au tout début de l'after.
Bien sûr, avec moi.
T'étais là.
On était en tribune ensemble après les matchs.
Il m'avait dit, par contre, tu me connais. Tu sais qu'avec moi, tout peut s'arrêter, hein.
Bien sûr.
Direct.
Mais l'esprit de changement.
Mais ce qu'il m'a dit, quand je lui ai expliqué ça, quand on a évoqué ce truc-là à Gravelaine, sur le changement de club et le côté traite, parce que lui, en plus, il a fait Paris OM. Alors, il n'est pas affilié à l'un, il est pas parisien de base, il est tourangeau. Mais il a fait les deux. Et il a fait Le Havre et Caen. Au milieu de ces 15 clubs, en plus.
Tu changes 150 fois, après, t'es le plus traître.
Ouais, exactement.
Tu vas au-delà, en fait.
T'es plus le traître
On disait mercenaire, d'ailleurs, pour lui.
Exactement.
Il expliquait que il ne s'était jamais senti, effectivement, comme un traître, parce qu'à chaque fois qu'il allait dans les clubs, il a donné absolument tout ce qu'il pouvait pour le club, à tel point que quand Monaco a voulu le prendre à la fin pour remplacer Gallardo, la fameuse histoire du tunnel de Marseille et tout, tu sais, pour la Coupe d'Europe, les gars lui ont dit oui, mais tu sais, on pourra peut-être pas te faire 2 ans parce que truc, les joueurs réclamaient minimum 2 ans.
C'est bon, prenez-moi 3 semaines.
Et il a dit, il n'y a pas de problème, j'ai pas d'agent, vous me prenez 1 an, par contre, mieux payé que ce que vous me proposez là sur les contrats longs, et je m'en vais dans 1 an. Pas de problème. Et il a dit, il négociait tout seul. Et il m'a dit autre chose. Il a dit, j'ai fait ça toute ma carrière. J'ai pris mon salaire. J'ai pris 50%. Je l'ai mis de côté. Les 50%, je les ai recoupés en deux pour les impôts. Et il me restait donc 25% à la base pour vivre. Voilà. Il avait une philosophie très simple. Mais je trouve que voilà, il a dit, j'ai jamais été traître. J'ai toujours été fidèle au club que j'ai défendu. Et ma vie, c'était ça. C'était de bouger et de faire fructifier mon talent.
Julien Laurent, c'est là. Julien, bonsoir. Julien,
il y a un décalage avec l'Angleterre.
Salut Gilbert, salut à tous.
Julien, quel est ton traître ultime de la Première Ligue?
Il y en a plusieurs, il y en a eu en Écosse aussi. Hein. On a eu des Mo Johnston qui ont joué pour les Glasgow Rangers et les Celtics. Mais le plus beau, c'est quand même Saul Campbell, qui est donc passé de Tottenham à Arsenal, en plus sans un indemnité transfert, puisqu'il était en fin de contrat à Tottenham. Lui qui avait rejoint le club très jeune, qui avait fait ses débuts en équipe première à 18 ans, qui était le capitaine de l'équipe, qui était vraiment identifié à fond Tottenham Hotspur, et qui donc décide, encore une fois, en fin de contrat, alors qu'il avait promis qu'il allait prolonger son contrat avec les Spurs.
Oui, ce qui est le pire dans la trahison, Julien, dans ces histoires de trahison, c'est le mensonge. Je le dis souvent, c'est les gens qui parlent. Si tu parles pas et tu vas chez le rival, bon déjà c'est pas beau, c'est ok tout, mais si en plus t'ajoutes la crème chantilly dessus, d'avoir été le mec qui a parlé, qui a promis, qu'on a fait des tonnes dans la détestation de l'autre pour bien montrer que c'était ta famille et tout, là c'est violent. Et Campbell, il est vraiment dans cette catégorie là.
Exactement. T'as raison, c'est le mensonge en fait, parce que il avait pas besoin de dire qu'il allait prolonger et qu'il voulait rester, etc. Il rencontre Wenger dans le dos de tout le monde, en secret absolu. Oui. Il fallait absolument que personne le sache, que personne ne les voit. Et au final, il annonce qu'il rejoint Arsenal. Alors après, pour sa carrière, on ne sait pas ce qui se serait passé à Tottenham, bien sûr, mais il remporte 2 titres de champion d'Angleterre, 2 coupes d'Angleterre. Il fait partie, bien sûr, des invincibles de cette saison incroyable sans défaite en Premier League. Donc, ça lui a réussi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il ne peut pas mettre un pied, à Tottenham, dans le quartier.
Oui, encore personne, moins dans le stade.
Ah oui, ça, là, il est persona non grata, magnifique. Mais c'est vrai que c'était, il y avait la rivalité entre les deux, bien sûr, mais tu as raison, Daniel, surtout le côté où il avait vraiment promis, entre guillemets, de continuer sa carrière à Tottenham. Il savait très bien ce que ça représentait pour les supporters aussi et pour le club. Et au final, il les laisse tomber comme ça, de cette façon-là, pour en plus aller chez Arsenal, qui était bien sûr la meilleure équipe avec Manchester United du pays. Mais c'est vrai que ça a été très, 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 très dur. Et encore aujourd'hui, hein, parfois, lors des matchs Arsenal à Tottenham, il y a encore certains supporters de Tottenham qui ont des petites affiches, on va dire, avec marqué Campbell, Saul égale Judas, ou Campbell égale Judas. Pour eux, c'était vraiment la trahison de Jésus et Judas.
Merci Julien pour ce magnifique traître qu'on avait un peu oublié. Bonne soirée, à très vite. Dans un instant,
merci les gars, bonne soirée.
Dans un instant, le traître italien de Johan, le traître allemand de Polo. Enfin, ils ne sont pas forcément italiens ou allemands, mais enfin, en tous les cas, ils ont joué dans leur championnat respectif. Et puis après, on s'attaquera à la France, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Florent Gautreau, plus Paulo Breiter et Johan Crochet, les traîtres du football. Allez, Johan, c'est à toi. Ton traître ultime de la Serie A.
Alors déjà, il y a un élément de contexte en Italie, c'est que il y a beaucoup de gens...
Ah, j'oublie le tennis. Excuse-moi, je suis en train de me faire engueuler par Jérôme Thomas. Excuse-moi, Johan. Oui, Eric.
Oui, parce que il se passe des choses. Gaël Monfils était au bord du précipice, 4-0, balle de 5-0, et là, il y a 4-2 et balle de 4-3, balle pour revenir à 3 jeux à 4 dans ce cinquième manche. Je peux vous dire que Gaël, il est comme un dingue, et les 15 000 personnes avec. Ça peut nous donner une fin de match assez extraordinaire.
Il est parti pour faire sa classique ou pas?
Alors, on va voir.
Du premier
allez,
tour,
tu nous rappelles. Johan, tu peux reprendre la parole. On y va. Le contexte italien.
L'élément de contexte, c'est que il y a beaucoup de joueurs en Italie qui ont joué, par exemple, pour les trois clubs du Nord. L'Inter, le Milan et la Juve. Et qui sont pas forcément considérés comme des traîtres, parce que dans les années 90, notamment, passer de l'un à l'autre, où c'était pas forcément vu comme quelque chose d'immensément grave, on naviguait un peu en fonction des ambitions des clubs à ce moment-là. Il y a sans doute le cas le plus emblématique, parce que celui qui a fait le plus discuter, c'est Roberto Baggio. Quand il quitte la Fiorentina pour la Juve en 90, où il y a des supporters de la Fiorentina qui descendent dans la rue, qui manifestent dans la rue, qui vont devant la villa du propriétaire de la Fiorentina, qui vont devant le stade. Il y a des barricades, il y a des violences avec les autorités policières. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc c'est le cas le plus... C'est un peu comme Figo, en fait, si vous voulez, dans l'esprit. C'est le cas le plus emblématique. Mais pour moi, c'est pas forcément le plus gros traître, parce que dans ce qui s'est passé par la suite, Baggio a toujours affirmé son amour, c'est un peu gros, mais pour la Fiorentina, quand il avait joué le premier match à Florence après son transfert, il avait ramassé une écharpe de la Fiorentina qu'il avait mis autour du cou. On avait su ensuite que il n'avait pas forcément voulu aller à la Juve, mais qu'on l'avait vendu un peu dans son dos, etc. Il y a deux cas qui sont assez rigolos. C'est Aldo Serena et Christian Vieri, qui eux ont quand même réussi l'exploit de faire les deux clubs de Milan et les deux clubs de Turin. Ça c'est quand même assez costaud, et qui sont pas vus d'ailleurs comme des traîtres pour le coup. Vieri est apprécié par les supporters de la Juve, de l'Atalanta, du Torino, du Milan, de la Lazio, de l'Atalanta, de la Fiorentina. Il a joué partout à peu près, mais lui il est pas vu spécialement comme un traître. Donc si je devais choisir un vrai traître, et dans l'impact vraiment que ça a laissé, dans la haine que ça a laissé, c'est Higuain quand il part de Naples pour aller à la Juve.
Celle-là, elle est vraiment pas belle.
Parce qu'il y a évidemment la rivalité Naples-Juve, parce qu'il y a l'amour qu'il avait déclaré pour le Napoli, parce qu'il part en activant sa clause libératoire, parce qu'il n'y a rien de beau, en fait, finalement, là-dedans. Et on lui en veut encore terriblement du côté de Naples. D'ailleurs, un ancien sud-américain aussi, Altafini, qui avait fini par signer à la Juve aussi, et que les supporters du Napoli avaient renommé cœur ingrat. Voilà, c'est un peu l'idée. Je pense que c'est sur la rivalité de Naples-Juve que les plus gros traîtres peuvent se trouver. Et évidemment, une petite mention pour deux entraîneurs. Sarri, encore sur la rivalité de Naples-Juve, quand il a fini par aller à la Juve, alors que c'était lui l'anti-Juve primaire pendant des années pour plaire au public napolitain. Et le deuxième, Daniel, c'est Leonardo, qui est passé du Milan à l'Inter comme entraîneur et qui a vu le droit lors du derby survolant à une superbe chorégraphie sur toute la tribune des supporters, sur toute la courbe à soude du Milan, avec marqué en gros Judas.
Mais en fait, en Italie, finalement, c'est plus entre nord et sud. Parce qu'en gros, dans le sud, ils considèrent que les trois du nord, de toute façon, ont fait leur boutique depuis des années. Et puis, il y a des histoires comme celle de Franco Baresi est milanais, et son frère, qui est peut-être moins connu en France, mais qui en Italie était très connu, son frère aîné, Beppe Baresi, lui était la grande figure de l'Inter. Il faut savoir que quand ils étaient gamins tous les deux, ils étaient à l'inverse. Franco Baresi était interiste, enfant, et l'autre était... Donc, ce genre d'histoire s'est toujours passé. En revanche, ce qui n'est pas passé, et là où Yohann a raison, c'est Sarri-Naples. Parce qu'en fait, quand t'es à Naples, t'es toujours dans un bain où tu vas être poussé à sortir une phrase sur les équipes du Nord. Parce que t'es dans ce bain culturel d'opposition Nord-Sud. Et si tu ouvres ta gueule comme ils l'ont fait, aussi bien Higuain que Sarri, quand tu y vas après... Et c'est bizarre parce que quand t'es supporter de la Juve, mais tu n'en as rien à cirer.
Mais
que l'autre, il t'est chié dessus. Il est mal parlé de toi. Ils s'en foutent totalement puisqu'ils disent, il a parlé, le con. Mais bon, quand il a fallu venir manger le pain dans le nord chez nous, les riches, il a fermé sa gueule de cutéreux. Donc en fait, ils le méprisent même. C'est ça qui est pire pour les Napolitains. Et la même chose serait arrivée, ça n'est pas arrivé fort heureusement, mais si un De Rossi ou un Totti était allé jouer. Alors là, les mecs, ils vont remettre plus jamais de leur vie un pied à Rome. Mais il y a une autre histoire, tu l'as pas mentionné, et pourtant il n'est pas estampillé sud du tout. Mais Capello, le champion avec la Roma, qui dans la nuit,
qui passe par la fenêtre de Trigorien.
Voilà, dans la nuit du titre, et la Roma des titres, ils en ont pas 1000, ils en ont 3 dans leur histoire. Qui sort, c'est le titre, il est en 2002, de 2001.
Non, c'est 2000-2001 le titre.
Voilà, 2001. Et il se barre dans la nuit et il signe à la Juve.
Alors non, là... c'est après ça, Daniel. Il quitte la Roma en 2004. C'est après la saison 2003-2004 qu'il
quitte
la Roma.
Non, mais quand ils sont champions, ils se barrent tout de suite après.
Non, non.
Bah,
non, il fait encore 2 ans, Capello, à la Roma. Il fait 2001-2002, il fait 3 ans, 2001-2002, 2002-2003.
Mais quand il annonce qu'il y va pas et qu'après il veut y aller, et il y va dans la nuit, là.
Il part avec Zebina, il part avec Emerson. Et c'est le gros scandale à Rome à l'époque où t'as deux joueurs majeurs de l'équipe à ce moment-là, plus Capello. Et l'histoire, par contre, de Capello qui s'enfuit de Trigoria la nuit est vraie pour aller signer
magnifique.
À la Juve.
Merci, Johan.
Merci à vous. Ciao, ciao.
Bonne soirée. Et Polo, à toi. Juste, je précise que on va repousser un peu les limites de l'after pour aller au bout du match de mon fils dans quelques instants. Petit point d'ailleurs, Eric.
4 jeux à 3 pour Sébastien Baez. Mais 30 ans sur le service de l'Argentin qui découvre l'atmosphère irréelle du Châtrier. Ça va être électrique jusqu'au bout, je pense.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la fin du match. On va la vivre ensemble, cette fin de match.
Et il y a pas de break, là, non ? Ou de ce 30 ans ?
30 ans. 30 ans. Allez, Polo, fais-nous rêver.
Bertie Fogg disait de lui que c'était un apprenti qui se prenait pour un général. On va parler d'un Bavarois qui était fou amoureux du Borussia Mönchengladbach de Günther Netzer, et après sa formation, plutôt que de jouer dans des clubs bavarois, est parti jouer au Borussia Mönchengladbach. Il faut donc revenir dans le contexte des années 70. Les années 70, comme on disait, soit tu es pour Mönchengladbach, soit tu es pour le Bayern. C'était, et on disait aussi, c'était pire que la séparation entre la RFA et la RDA. Tu étais soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est pas possible d'être pour l'autre. Et puis, il s'est passé quelque chose. En novembre 1983, un journal Bild, en l'occurrence, un journaliste de Bild, se rend compte, va dans un hôtel près de Düsseldorf. Et là, il y a une star montante, évidemment, de Mönchengladbach. Vous allez la trouver. Qui, finalement, son agent est en train de négocier avec le Bayern Munich pour un transfert en 1984. Et là, l'agent de ce joueur c'était un certain Lothar Matthäus, qui ce jour-là va devenir, vous avez déjà employé le mot, le Judas ultime. En Allemagne à l'époque on disait, tout, même les athées savent maintenant qui est Judas dans la Bible. Donc en fait il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que cette année-là, 1984, donc Lothar Matthäus va partir au Bayern Munich, mais les deux clubs vont se rencontrer en finale de Coupe d'Allemagne. Et qui va tirer le premier pénalty? C'est Matheus. Et il va le rater contre Pfaff. Donc c'est complètement fou ce qui s'est passé dans les tribunes. C'était le traître ultime. Et il reviendra avec le Bayern en décembre 1984 pour le premier match télévisé de la Bundesliga sur les chaînes allemandes. Et on entend pendant 90 minutes, évidemment, des sifflets tout le temps pour Matheus. Et on entend Judas, Judas, Judas systématiquement venant des tribunes du Böckelberg. C'est Lothar Matheus est considéré comme le traître ultime en fait, et, mais on a oublié quand même que c'était un Bavarois. Le problème c'est qu'il a toujours dit que son amour c'était Mönchengladbach et ça s'est un petit peu raté. Il y en a un autre qui est très connu, c'est Andreas Müller, et le troisième pour en parler ce récent c'est quand même Manuel Neuer qui parle de Schalke au Bayern Munich. Et on n'oublie pas qu'on avait mis pendu sur les ponts de Gelsenkirchen des effigies à l'image de Manuel Neuer, mais quand même dans l'imagerie populaire c'est Lothar Matthäus en 1984 qui part de Mönchengladbach au Bayern Munich.
Magnifique, je ne me souvenais pas du tout de cette histoire. Merci Polo.
Voilà. Et les mecs, et Polo, et les mecs qui passent de Dortmund au Bayern, c'est vu comment ça, je sais pas, me revient.
Bah, c'est en général, c'est très mal vu, mais on oublie toujours qui sont. Bah, je pense toujours à Mario Götze. Mario Götze, c'est un Bavarois, et dès que t'es Bavarois et que le Bayern vient te chercher, il y a un moment tu reviens tout le temps. C'est pas bien vu, mais le problème c'est que c'est le Borussia Dortmund. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'histoire actuelle. C'est pas si important que ça. Le grand opposé. C'est pour ça que je dis toujours que le classiqueur, il y aurait beaucoup de choses à dire quand on dit que c'est Dortmund contre le Bayern, mais le vrai classiqueur allemand, c'est Mönchengladbach contre le Bayern Munich. Sauf que le problème, c'est que Mönchengladbach n'est plus capable de concurrencer le Bayern Munich comme dans les années 70. C'est 5 titres nationaux pour le Mönchengladbach dans les années 70, c'est 4 pour le Bayern Munich. C'est pas si évidemment, il y a toujours des gens qui disent ah mais non, c'est pas normal ceci cela, mais c'est beaucoup moins important que ce qui s'est passé avec Andreas Müller par exemple ou Lothar Matthäus.
Merci Polo.
Merci à vous.
Merci. Alors du coup, on n'a pas eu le temps de faire les Français. Je pense qu'on va se garder ça jeudi, les gars. Jeudi, on aura un peu de place pour s'occuper des traîtres français, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire. Et on a reçu beaucoup d'appels ce soir de Bordelais, de Marseillais, de Parisiens qui veulent parler de leur traître à Auch. Je sais pas s'il y a un traître à Tours, mais bon, on verra.
Il y avait une petite histoire à Tours parce qu'il n'y a pas eu de club vraiment suffisamment rival pour qu'il y ait l'idée de la traîtrise. Non, il y a quand même. C'était l'idée par rapport aux sportifs. Il y a un gardien, Desrousseau, qui avait participé aux années en première division. Et quand le club est descendu en deuxième division, il était parti ailleurs pour un contrat meilleur, peut-être rester en première division, je ne sais
plus.
C'est
la trahison.
Un autre gardien était venu, c'était Dobrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Frédéric Dobrage, qui est devenu agent après. Le club est remonté grâce en partie à Dobrage. Et là, Desrousseau a dit, ah ben moi, finalement, je vais bien revenir jouer à Tours en D1, mais seulement quand ils sont en D1. Et il y avait une pétition à l'époque dans les tribunes pour garder le gardien de la remontée. Alors qu'on adorait aussi Desrousseau, mais on disait, bah ouais, mais mec, t'es parti, il y en a un qui a pris ta place, quoi. Et donc, il y avait eu ce côté, le traître qui était parti quand on était descendu et qui voulait revenir quand on était remonté. Voilà.
On fera jeudi les clubs français. Bon, le tennis, Eric, où en est-on?
Ah, il nous souffle le
c'est
chaud,
la folie,
le
là. C'est la folie.
Parce que là, on bascule en after tennis, là, ouais, minuit une.
Break pour Baez.
Je précise que
il faut quand même dire que mon fils a recollé de 4-1 à 4-4 avec le Châtrier en folie, la classique mon fils et tout ça. Et quand il recolle à 4-4, là, il vient de perdre son service blanc, mon fils. Et il a crampé là. Il tient plus debout là, il a tout donné.
Il a reçu un cadeau, il a un petit sac blanc.
C'est pas fini encore, il y a
Baez. Joko a mis un truc dans le sac. Joko a peut-être mis un truc dans le sac blanc là.
Il y a encore beaucoup de monde ?
Bien sûr, ouais, bon, c'est pas plein à craquer, mais il y a 10 000.
Mais la musique, là, sur les changements de côté, elle est
nouveau, ça.
Non, mais elle y est que le soir.
Ah bah oui,
c'est là, c'est pour la night session.
D'accord.
Bien sûr. Ouais.
Parce que je trouve ça top, moi.
Bah, c'est génial, ouais.
Qui choisit la musique ?
Mon DJ.
Primo Resto ?
Philippe Corti.
Allez. Bon, allez, c'est parti pour John Baez, qui va servir pour le match.
Grosse pression pour l'Argentin. Mais Gaël, le problème, c'est que
franchement, pour l'instant, il est assez solide, parce que la folie qu'il y a dans le stade, il aurait pu craquer.
Il s'est fait une petite montée au filet, là, au bluff, là, tout à l'heure. Il est solide, ton Argentin.
Ouais, mais bon. Il va être poussé par 10 000 personnes, Gaël, et ça peut le faire. En tout cas, on attend que ça, mais c'est vrai que Baez, il a montré sa solidité mentale, là, sur le jeu d'avant. Mais il part à la faute. 0-15, ça, c'est bien. 0-15. Coup droit, couloir. Voilà une bonne chose de fait. C'est pas un gros serveur, hein. C'est le gabarit de Schwartzmann, donc il va pas vous faire des aces. Il faut que Gaël prenne sa chance. Il faut jouer en 2-3 coups de raquette, pas plus, parce que là, visiblement,
les jambes le portent plus.
Autant ça fait déjà deux œufs qu'il met que des sacoches. Hein.
Bah oui, il est comme toi au casino, il tente le tout pour le tout.
C'est vrai.
Mais allez, deuxième balle de service, et Pudik va évidemment essayer de perturber le jeune sud-américain, 22 ans. Allez, une mythe de Gaël gagnant 0-30. Mais oui, 0-30. Énorme.
Le retour qu'il met. Je ferme les yeux, j'envoie une sacoche.
Mais il a raison, on voit toutes les sacoches du monde, Gaël. 0-30. Fais-nous kiffer jusqu'au bout. Il l'avait dit, hein, on l'avait vu en conf avec un ou deux confrères de Fabrice Abgral et il nous avait dit ouais, j'ai envie de kiffer. Bah voilà. Il offre un kiff.
Avec un ou deux confrères, Fabrice Abgral.
Notamment, ouais.
On le salue.
Pas le citer. Je sais pas pour qui
travaille. On l'embrasse
à lui. Allez, 0-30. Une mythe encore de Gaël Monfils. Il est dans les cordes là, de Baez, mais il parvient à remettre. Mais là, ça va vite, Gaël. Allez, tranquille, là, Gaël, tu montes. Non, il n'ose plus monter, ça revient encore. Un coup droit de Gaël. Encore une mythe. Il est derrière. Qu'est-ce qu'il défend bien, Baez? Qu'est-ce qu'il défend bien?
S'il lui remet 5 fois, c'est fini, il ne peut plus après.
Petit coup, elle est bonne. Elle est balle 0-40. Incroyable. 0-40, 3 balles pour recoller à 5 jeux partout.
Il est vrai, ce petit coup chopé, là. C'est ouf ce qu'il a fait, là.
Ce match est dingue.
Espèce de morti bizarre.
Un petit coup droit chopé, comme un papy, que ça prend la ligne, ça suffit. Allez, 0-40. Il est dans les fleurs avec les spectateurs, Gaël, j'ai l'impression.
Combien de fois il a fait ce premier tour en 5-7 bon. T'as les stats là-dessus, parce qu'il en a fait des matchs comme ça. Hein.
Bah, c'est en 5-7, c'est bon, il y a un bilan négatif, c'est ça qui est bizarre. 18 victoires,
ouais, pas à Roland, 19 pas défaites. Sur le premier
à Roland,
tour
10,
de Roland.
4, 10 victoires, 4 défaites.
Ah oui, voilà, à Roland, le premier tour comme ça, on l'a déjà vu plein de fois. Souvent.
Il y a Didier Deschamps hein, qui est présent.
Pardon ?
Il n'est pas présent, Deschamps. Non, sinon, mon fils, il va perdre au péno.
Pardon. Allez, 0-43, balles de 5 partout. Avec Baez qui doit découvrir. Bon, c'est un latin, c'est un sud-américain. Il a dû jouer des matchs chauds à Buenos Aires. Mais là, ce qu'il vit actuellement, là, je crois qu'il ne l'a jamais vécu. Allez, Gaël est dans les cordes. L'amorti de Baez, elle est gagnante. 15-40.
D'ailleurs, s'il lui fait des amortis, il va gagner tous les points. L'autre ne peut pas courir vers l'avant. Hein.
Ouais, mais bon, il faut avoir le temps pour faire des amortis quand même.
Ouais, mais pour l'autre, c'est pour ça, il faut qu'il remette 2-3 fois la balle. Et...
Ouais. Non, mais là, il avait bien travaillé son point. Il avait bien fixé Gaël. C'est vrai qu'il a. Il a été intelligent. 15-40, Gaël qui a les mains sur les genoux. Je pense qu'il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie, mais il va
il paraît qu'il y avait Vincent tout à l'heure sur le central.
Il paraît, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Aïe, 34. Non, elle est bonne, prend la ligne.
Moscato, ouais.
Attention. Allez, Gaël avec son coup droit qui est en train de faire la misère. Ah, Baez, 5 partout. Fabuleux. Fabuleux, la montre. Fabuleux. De 0-4, balle de 5-0, il la sauve. Et là, c'est reparti comme en 40, c'est ce que disait. Il a dû trouver une station essence, il a fait le plein et hop, c'est reparti. C'est dingue. 5 partout. Incroyable. On va aller au bout de la nuit, les enfants.
Il est assis dans les bacs à fond.
Ouais.
Enfin, au bout de la nuit, au bout d'un moment, ça va se finir.
Non, il y a super tie-break.
Super tie-break en mode en 10 points.
Tu sais quoi, Daniel, ouais. Apparemment, on assiste à un premier tour incroyable à Roland avec 20 matchs en 5-7, record absolu en Grand Chelem.
Ah, d'accord.
On n'a jamais vu ça.
Déjà, il y a un autre record, Eric, c'est qu'il y a 15 jours de beau temps prévu à Paris. C'est jamais arrivé depuis 200 ans. Donc,
quand tu repenses au tournoi de Rome qui se joue sous la flotte, c'est complètement dingue. Allez, 5 partout dans 5 upset, 3h35 à la pendule. Et donc, Baez qui. Et voilà, 15-0, un service gagnant. Il va le faire, hein. Je crois qu'il va le faire, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, je pense que ça va le faire. Il peut pas perdre ce match. Après tout ce qu'il a fait.
Et contre qui il va perdre en 3-7 au deuxième tour?
Tu vas rire.
C'est
une affiche de folie.
C'est qui?
Holger Rune.
Ah oui, là, ça va être une boucherie.
Mais...
Non. Night Session.
Ouais,
Night Session. Et il peut péter un câble, l'autre. Hein.
Non, je crois pas.
Avec un tel public. Non, tu crois pas?
Il va gagner le tournoi.
Je sais pas, il est solide quand même.
Ouais, il est solide, mais moi je veux le voir dans une telle atmosphère. Allez, 15-0.
Donc
Gaël,
dans 48 heures en Night Session, Rune, ouais, ça va être quelque chose. Ça.
Ah oui, là faut que tu viennes, hein. Faut que tu trouves une invite. Là,
jeudi?
Oui, c'est 30-0, un revers de butant, mais il trouve toutes les lignes en plus. 30-0 sur le service de la Monf. Je rappelle son classement ATP parce qu'on l'avait perdu de vue, la Monf. 394e mondial. Vous vous rendez compte? 394e.
Et il est combien le petit Baez?
Ben, 42.
Ah ouais? Je l'avais jamais vu.
Il a été plus haut, hein, mais là, il a eu un début d'année un peu compliqué, un peu comme Schwarzman. Allez, 30-0, Gaël qui prend son temps, on surveille l'horloge, encore 8 secondes avant de servir si on va prendre un petit avertissement. Et bon, je pense que c'est pas dans l'esprit. Hein. Là, il y a un bruit monument, il y a un vacarme hallucinant. 30-0. Bonne première, elle est dedans. Allez, il y a un coup droit pénalty là, Daniel, c'est fait, 40-0. Fabuleux, 40-0, il va nous le faire. Hein. Incroyable, je rappelle qu'il était mené 4-0 il y a quelques... Bon, à une demi-heure en gros. Hein. Il était au bout.
Et je rappelle qu'il est minuit 8 et qu'on vit la fin de match ensemble jusqu'au bout.
C'est
là.
La magie RMC.
C'était pas prévu, mais on est comme ça.
C'est la magie RMC.
C'est
40-0. 3 balles.
Sinon, pour faire... installer un petit lit de camp là-bas, sinon, Eric. T'as ton chez toi.
Oh, notre cabine est assez confortable. Faut reconnaître. Allez, 40-0. Deuxième balle de service à venir pour Gaël, mon fils. Allez, la ramasseuse, faut ramasser la balle. Merci, c'est fait. Deuxième balle.
Donc là, il va passer devant à 6-5 et l'autre va servir sous la pression.
Double faute, 45. Non, mais si Baez s'en sort en étant mené 6-5, le mec, je dis respect. Parce que là, c'est jouer devant mon fils plus 10 000 personnes. Waouh, c'est
ambiance. Mon fils fait le coup du gars qui tient plus debout encore une fois.
Ouais. Allez,
il peut y avoir du bluff ou il est vraiment mort.
Ouais, je pense qu'il est entamé, forcément.
Mais... ça fait partie du scénario, mon fils.
45, deux balles pour faire 6-5 donc. Premier filet. Allez, deuxième balle. Je peux faire de double. Hein. De double, là, ça commencerait à être dangereux.
Oh, celle-là, elle est pas belle, la première que je viens de voir, avec un petit décalage. Hein. La jambe en l'air, moitié voilà, mi-filet.
Gaël, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'impression qu'il a plus d'appui du tout. Ouais, il est pris, là. Il est pris. Oh, ça revient, c'est un miracle. Baez qui monte. Passing de. Gaël! Mais c'est quoi ce passing? Passing de revers, je sais pas comment il l'a sorti. 6-5. C'est dingue. C'est complètement dingue. Il n'avait pas d'appui, Daniel, t'as vu?
Ouais.
Et comment il le fait?
Bon, bah maintenant, le joueur qui sert.
Et Baez quitte le court sans prévenir l'arbitre pour aller aux toilettes. Alors ça, c'est encore nouveau, ça. Hallucinant.
Ah, il est sifflé, là.
Bah oui, il est parti en courant.
Il y a le mec qui lui court derrière.
Bah ouais, mais c'est trop tard.
Il y a le mec qui lui court derrière.
C'est incroyable, ce match. 6-5 Memphis et Baez qui a quitté le court comme ça en plein cœur de la bataille.
Non, voilà, c'est interdit. Comme ça, non.
C'est interdit.
Parce qu'il y a,
alors c'est interdit, sauf que là il a 1 minute 30 pour revenir. Sinon il va prendre un warning pour dépassement de temps. Donc il se dépêche comme d'aller faire pipi. Hein.
Bah, dis-moi, il y a une polémique à Roland Garros sur les balles. Apparemment tout le monde s'en plaint.
Apparemment c'est pourri, ouais, c'est pourri.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as testé?
Il y a une déperdition de qualité, mais c'est plutôt général apparemment. C'est peut-être dû au Covid. Les fournisseurs ont peut-être pas eu la même matière première qu'avant. Et... voilà, le revoilà, Baez. Donc c'était juste un petit.
C'est un vrai problème, les balles. Mais c'est pas la première fois à Roland. Il y a souvent des polémiques sur la qualité des balles.
Oui, puis il y a eu un changement d'équipe.
La qualité des balles, elle soit moins bonne à cause du Covid. Je vais aller me la sortir, ça.
Alors, il y a eu de gros problèmes. Alors, c'est pas forcément Covid, c'est plutôt la crise qu'il y a eu.
Ouais, voilà,
les balles étaient plus fabriquées. Il y a eu des vrais problèmes de pénurie et de qualité de balles récemment. Ah,
tu vois, Gilbert, j'ai pas de bêtises. En plus, Roland Garros a changé de fournisseur. Avant, on était plutôt français. Là, ils ont acheté américain. Enfin, ils sont vendus.
C'est qui cette année, les balles?
Wilson.
Ah ouais. Ah, pourtant, je suis.
Ouais. Allez, 6-5 pour Gaël, mon fils, qui encourage la foule. Là, les grands mouvements de bras, là, les gars, j'ai besoin de vous, dit-il. Bon, il n'y a pas besoin de faire de mouvements.
J'ai senti un petit décalage de 2 secondes, là. On n'a pas. Il va savoir avant nous, là.
Je suis désolé. Hein. Mais moi, je suis en direct. J'ai vu sur le cours. Allez, 6-5 pour Gaël, mon fils. Baez est au service avec son maillot jaune, fausse réplique, Noah. Et en face, il a un maillot ocre, Gaël, mon fils. On le perd un peu avec la terre battue. Mais là, il va nous sortir un jeu fabuleux. Il le faut. Il ne peut pas perdre ce match. Oula, il est pris là. Il est pris. 15-0 pour Baez. Ouais. Alors, si on a un tie break, alors là, bah, c'est une séance de tir au but. Vous avez raison. Hein. C'est un peu ça. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est comme le tir au pénal. Le tie break, c'est mental. 15-0
dans ce match. C'est mental pour mon fils. Il y a un peu de physique aussi.
Ouais, il y aura de tout. 15-0 Baez, donc qui est au service pour recoller à 6 jeux partout, si possible pour lui. Et il a dégommé la petite pancarte Lacoste là, devant le juge de ligne du centre. Allez, bon retour de Gaël, bien agressif. Ça temporise là. On a l'impression que. Oh, filet, 15-1. Allez, 3 points, encore 3 points. Ah, il est en train de craquer, Baez. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il est en train de craquer. Ah oui, et forcément, Daniel, il repense au scénario. 4-0, balle de 5-0.
Je pense qu'il va être bien énervé s'il perd ce match. Hein.
Il va casser, il va fracasser le vestiaire, je pense. Allez, 15-1. 3h41 à la pendule. Minuit passé. C'est l'une des plus belles light sessions. Évidemment, il y a eu le Nadal Djokovic, mais ça, ce sera inégalable. Et celle-là, on va s'en souvenir. Hein. 15-1. Ouh, il a flanqué avec la double faute, la Baez. Bonne attaque de Baez, passing, ouais, non, il peut pas rien. Voler déposé dans le filet, dans le court déserté, parce que Gaël était complètement pris de vitesse et, oula, il remonte le short, je pense que ça crampe de partout au niveau des cuisses. Ah, là, ça doit être très douloureux, mais bon. J'ai jamais vu comme ça le short remonter, Gaël, c'est que vraiment ça tire.
35 pour Baez, 6-5. Il est à deux points d'arracher le tie-break.
Je crois qu'on va y aller, hein, Eric.
Oh oui, je pense que c'est. Je rappelle que ce tie-break se déroule en 10 points. C'est un super tie-break. C'est maintenant généralisé à tous les trois du Grand Chelem. Filet, 30-1. Oh là là ! À deux points ! À deux points, Gaël ! Allez, faut pousser encore, faut tenir.
Je comprends pas pourquoi il faut pas durer l'échange, l'autre. Ouais. Mon fils, il est en mesure que de faire des coups magiques. Il faut absolument qu'il nous fasse durer son échange.
Et là, Gaël, c'est fou. Il a plus
de lucidité, l'autre. Hein.
Il est côté présidentiel et il n'arrête pas de s'adresser à ses deux nouveaux coachs. Et là, il y a un coaching, mais c'est hallucinant, c'est autorisé. Mais ils lui disent, fais ci, fais ça. Et pour l'instant,
que ceux qui fassent que coaching, l'autre, il est cramé.
Ah ouais, mais il y a peut-être des petits trucs de. Attention, Gaël est loin, mais il se rétablit bien là dans l'échange. Revers de Gaël, mon fils. Baez qui appuie avec son coup droit, mais ça revient encore de là, mon fils. Oh, il n'est pas bien, Gaël, là. Je pense que.
Eh oui,
non, allez, faute. 40-30.
Eh oui, il faut que Baez il fasse durer. Il le balade droite-gauche, il fait durer l'échange. Et si on retrouve un peu de lucidité, il ne peut pas ne pas gagner, l'Argentin.
Ouais, mais comment vous tuez Tucide avec une telle.
Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Il y a un bruit assourdissant, quoi. Tu peux même pas imaginer. Allez, balle de tie-break. Oh là là, on va y aller. Au bout de la dramaturgie. 6-5, 40-30.
Si tu dis Sébastien qu'il sert pas fort, faudrait que mon fils, sur le retour,
fasse. Il est très loin, là. Il est très loin, ouais. Là. Ça, il pourra pas. Il sert sur le revers de Gaël. Baez qui appuie, qui insiste côté revers de Gaël. Et qui change de direction. Il est pas bien, là, Gaël. Ça revient quand même. Mais bon, ça va mal finir, cette affaire, là. Il est au pénalty. Passique de Gaël. Oui, filet. Oh là là. Il a raté son attaque penalty Baez.
Oh là là.
Il crampe, Gaël, il crampe, il peut plus marcher là. C'est dingue. Il boite. Mais il est à deux points du match, à deux points du bonheur. Mais comment il va s'en sortir? Comment il va faire? Je sais pas. Mais Baez, t'as raison, il est pas lucide. À la rigueur, tu fais
une
service à la cuillère, il y va pas, Gaël.
Et absolument, c'est vrai.
Sauf que cette histoire du mec blessé là.
Oui, on
ça gêne. Non, mais en plus, ça gêne le mec qui est en forme. Il ne sait pas comment faire face à ça.
Mais c'est vrai que c'est un manque de lucidité. Mais je peux le comprendre.
Voilà, il a un mec qui claudique.
Et là, tu vois, Gaël, il va prendre un warning, je pense. Parce qu'il y a 5 secondes, il n'est pas prêt. Je pense qu'il va prendre un warning. Je vais guetter.
Il ne peut plus marcher, l'autre. Il fait durer l'échange.
Et demande la pubie, comme ça peut entourlouper l'arbitre. L'arbitre n'a encore rien annoncé. Il n'y a pas d'avertissement pour Gaël, je pense. Attendez, tu veux écouter?
Il va peut-être être indulgent, hein.
Ouais, je pense.
Attends, l'autre, il peut plus marcher.
Mais oui. Bonne première de Baez. Je rappelle qu'il y a deux points du match avec Gaël. Hein. Les appuis sont incertains, mais pour l'instant, ça tient. Il a chuté de mille, là, Gaël. Allez, un coup de rappel, il va y aller, là. Il va y aller.
Déconner, mon fils, il a 10 mètres derrière la ligne. Il est bête, là.
Amorti de Gaël, mon fils. Balle de match! Oh là là, l'amorti gagnante. Mais il pointe, c'est dingue! Il va finir en chaise roulante. Et balle de match! Mais c'est pas possible, il n'arrive plus à marcher.
Et il se marre.
C'est incroyable. Ce match est complètement dingue. Balle de match pour Gaël, mon fils. Qui boite. Il ne peut plus marcher.
Il faut qu'il tente retour gagnant. Il lâche une sacoche
voilà,
directe.
Voilà, tu lâches une bite.
Si l'autre, il ne met pas la première derrière.
Mais là, il est très loin de sa ligne. Il est trop loin. Je serai lui, il m'avancerai. Et puis, allez, on prend le sommet du rebond, on ne sait jamais. L'échange est engagé. Baez, qui joue le revers de Gaël. Revers de Gaël encore. Petite amortie de Gaël, c'est bien joué. Baez n'est pas très bien. Il y a un passing de revers à faire, là, un lob. Il tente le lob. Allez, passing de coup droit. Oh non, il le rate. Oh non, franchement, il était jouable celui-là.
Oh, même le lob, il est jouable, le lob. Oh.
40 ans.
Oh, il avait une opportunité énorme sur le lob, l'autre, il n'est pas grand en plus.
Il a lobé côté revers de Baez, c'était pas mal. C'était
oui,
pas
ça,
mal,
c'est, et... ça c'est la bonne idée, mais
plus, il a manqué
haut,
un mètre, quoi.
Oh là là.
Comme il n'a pas d'appui, quoi.
Égalité, donc c'était une balle de match.
C'est l'after, hein, il est minuit 17, ouais, là on est là. Avec Eric Salio, ils sont sur la Takini, qui nous commente la fin du match de mon fils en live.
Allez, Gaël, mon fils, qui tient l'échange, là. De Baez qui incite, on sent qu'il force, hein. Il veut vraiment essayer de déborder le Parisien. Amorti de Baez, elle est belle, elle est gagnante. Non, il a armé. Oh, il a armé, je sais pas comment il fait. Encore une volée, amorti. C'est pas possible, l'amorti. Elle est miraculeuse. Nouvelle balle de match, les enfants. Elle est miraculeuse, cette volée amortie.
Voilà, là, franchement, sur les crampes, il en fait un peu trop parce que la façon dont il a couru sur l'amortie, moi, à la place de Baez, franchement, je m'énerve, quoi.
Ouais.
Franchement, c'est exaspérant ce qu'il fait, là. Là, le sinoche qu'il fait, franchement.
Baez, lui, il est prêt à servir déjà. Il est prêt à servir, évidemment.
Sur l'amortie, d'un coup, il retrouve les jambes, il court, et là, derrière, il fait le cinéma.
Il n'a pas le droit de servir direct, même quand le mec est pas là.
Normalement, il doit prendre un warning, là.
Ah ouais, parce que là, c'est limite ce qu'il est en train de faire, là.
Ouais, mais là, il est.
Je pense qu'il a ça tellement... va, c'est sympa et tout, mais enfin bon, il y a des limites quand même.
Oui, t'as vu, là, le short remonté dans.
Là, il en fait des tonnes.
Allez, silence, silence, silence. Balle de match numéro 2.
Ben, on dirait Patrick Chirac.
Oh là, elle sort de 3 bons mètres, la première. Ça peut déboucher sur un truc, si vous voyez ce que
là,
je veux dire.
La double, là.
Ouf, il a tenté la. Il a visé le T, là. Gaël Batou, là, il la remet un peu comme il peut, Gaël. Montée de.
C'est pas vrai! Un passing gagnant avec l'aide de la bande! Quel beau fils remporte ce match insensé! Insensé! 347! Ben, qui serre la main de l'arbitre, il est dégoûté, il est dépité. Et Gaël qui boite, il va se diriger quand même vers son adversaire. C'est une victoire hallucinante! J'ai jamais vu ça, je crois. Incroyable! Les deux se serrent la main, Wire. Oh là! Mais bon, il n'y aura pas d'accolade, donc quand même, tu vas bien fourrer. Mais c'est incroyable! Incroyable! 3-6!
On est d'accord, 6-3, c'est Eric, 7-5, on est d'accord, c'est le premier tour!
7-5, ce n'était qu'un premier tour! Oui. Et c'est peut-être le début d'une saga, non? Vous ne croyez pas?
Non.
Si vous voulez, on peut écouter Gaël, il va parler à Mario Bartoli, il s'allonge sur le dos, exténué, en croix, les bras en croix! C'est du n'importe quoi! Allez, il est au bout de sa vie! Mais quelle merveilleuse victoire! Quelle merveilleuse victoire! Ça, c'est le genre de truc qui peut l'inciter à continuer. Ah non, mais il est en pleurs là. Il est en pleurs. C'est fabuleux.
Oh, le cinoche.
Fabuleux.
Premier tour.
Voilà. Non, mais Daniel, il est allé chercher. Ouais. Tu sais pas comment.
Ouais, c'est pas la première fois qu'il fait ça.
Mais c'est un peu notre finale à nous pour les Français.
Ouais, voilà.
C'est un peu notre dimanche après-midi.
C'est le sixième français à réaliser le deuxième tour.
Bonne nuit quand même, c'est
pas tard. Merci, Eric. Merci, Eric. Vous voulez pas l'écouter au micro de Marion?
On va te laisser avec Marion. Allez, on va te laisser avec Marion.
Bonne soirée, c'était un plaisir. Un kiff total.
Allez, salut Eric. C'est fini là-dessus. Et puis n'oubliez pas, Roland Garros 100% sur l'appli RMC Sport. Vous téléchargez l'appli, vous avez la radio Roland Garros, radio terre battue. 100% tennis toute la journée. Voilà, on est allé jusqu'à minuit 20 pour ce match. Demain on sera là dans l'after dès la fin de la finale de l'Europa League, puisque demain soir ce sera finale de l'Europa League. On se retrouvera dans l'after dès le coup de sifflet final. Bye bye.